Bonjour, c'est Lilia Hassen, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a des semaines qui démarrent mieux que d'autres. Des activités professionnelles parallèles m'ont amené à m'intégrer pendant le week-end à la marche silencieuse d'une troupe de super-héros toulousains, puis à participer à un aligot géant dans le Tarn-et-Garonne. Et c'est donc harassé sur les rotules, pourrait-on même dire, que j'ai regardé le nouveau film de Christophe Honoré, dont nous recevons aujourd'hui l'une des héroïnes. Dans ce genre de circonstances, le visionnage d'un film est un test plus que révélateur. Ça passe ou ça casse? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, ami pop-popien, ça passe et haut la main. En même temps, pouvait-il en être autrement? Attendez, je sors ma boîte à cirage. Au regard de la troupe qui compose ce bouquet, je dis ça pour Carole, du casting. Le chéri de Charline Roux, Benjamin Biolay, le chéri des crocodiles, Vincent Lacoste, et la chérie de notre rédacteur en chef, Aurélien Esvan, Chiara Mastroianni, dont il nous disait encore ce matin « Moi, Chiara, c'est quand elle veut, où elle veut. Je suis même prêt à faire une infidélité à Laurence B., notre bien-aimée directrice. » Oui, il parle comme ça, Aurélien Esvan. Et moi, dans tout ça, vous demanderez-vous? Oh, moi, la seule présence de Camille suffit à mon bonheur. Après tout, nous sommes tous les deux nés un 1er décembre. Pas la même année, hélas. Mais enfin, ainsi va la vie. Camille Cotin est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter.
Pop Pop Pop.
Antoine Decaune.
Bonjour Camille Cotin.
Et bonjour Antoine.
Bienvenue dans
notre ami Sagittaire studio. Alors.
Ami Sagittaire. Quel ascendant?
Je sais pas.
Comment ça vous savez pas?
Ouais.
Moi c'est Gémeaux moi. Comme ça vous le saurez.
Et voilà. Bon.
Alors bienvenue dans ce studio, bienvenue dans le studio 611 pour parler de Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré. À mes côtés, celle dont les rêves sont donc peuplés de Biolay, Charline Roux. Bonjour Charline.
Vous mentez Antoine Decaune. Vous savez très bien que je rêve de vous parce que je suis traumatisée de mes journées de travail. Bonjour Camille.
C'est tellement bon à entendre. Au menu également de Pop Pop Pop, eux. Les Allemands du groupe Kaiser Quartet qui seront live sur notre scène mythique tout à l'heure. Mais avant ça, Camille, ici, il existe une question encore plus violente qu'une réplique de votre personnage de connasse quand elle s'incruste dans un bar gay.
Ah, c'est pas un cocktail de PD, ça, hein?
Et cette question, c'est... Pour vous, Camille Cotin, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses camillantes, cotineuses et même connassesques. Et parmi mes préférées, il y a celle de Vincent Lacoste avec qui vous partagez l'affiche. Écoutez.
C'est un peu les Beatles, quoi, la culture pop. Mm-hmm. C'est-à-dire quelque chose de populaire en même temps de qualité, quoi, et assez rock'n'roll en même temps. Ça a l'air ni chiant, ni intellectualisant, ni je sais pas comment dire, un truc populaire mais de qualité, quoi, je dirais.
Voilà pour Vincent Lacoste et pour vous, Camille Cotin.
Bah, si lui il parle des moi quand on me dit pop culture, je pense à Warhol et à Oasis.
Mmh.
Voilà, qui sont pas tout à fait de la même époque, mais donc la banane en quatre couleurs et Wonderwall. Non, effectivement, ce serait quelque chose de qualité et d'immédiatement accessible, de peut-être un peu. Il y a une spontanéité dans l'affect. Accessible, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu joyeux, d'un peu optimiste dans ce que représente la pop culture. Enfin, je pense à ces groupes, Warhol dans ses couleurs, dans son ou même par exemple, je parlais de Space Invader tout à l'heure, qui serait un artiste de pop culture. Il y a quelque chose de ludique et de joyeux.
Culture accessible, c'est-à-dire à la portée de tous.
À la portée de tous, oui, sans avoir forcément un bagage culturel qui permet de comprendre ce dont on nous parle, ce qui ne rend pas moins creux.
Bien, voilà une définition qui me convient. Charline, vous validez?
Tout à fait.
Ok, c'est validé, c'est bon, on peut démarrer. La pop, la culture et la pop culture.
J'étais prête à partir, j'avais mon sac sur les épaules, j'étais prête à sortir.
Non, c'est bon, vous pouvez rester.
Okay, ça va.
On va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le tout nouveau morceau d'IAM qui s'appelle Homo Tessando. We'll be right back.
baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le. Tu connais la Célessao, Pagacho, rarement KO. Message personnel à ceux qui visent le titre, le chemin, la ceinture. M6 Queen sur le ring. Je trappe 7-7, crash sec, mais live tout droit de Fort Greene à Brooklyn. On vient convertir les sceptiques, les éclairer, réchauffer leur climat. Bloc party. Bloc party quand les platines sont de sortie. Tu t'es prêt pour découper. Tu piges mes lyrics. A tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord. Rap strict, 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 rap strict. Rap strict, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap strict, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap strict, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap strict, yeah. Je vandalise le rap simple et comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont prises viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas. Même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je brosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains savent tous qu'on est des Rottweilers. 100% des mots sont à nous. C'est quoi ce rap avec des ghostwriters? J'en pousse seul, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre comme Géronimo, Smike les humilie, tous se faux bling à Nick et Maritine, comme Rakim les alignés, les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi, quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation, leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. À mes yeux, ça reste trop vague. Alors, c'est quoi que tu fais, rap ou violence, pas beau, escroc blague. À l'opposé de ta tactique, cruelle extérieur, dedans, complètement cuit, ainsi fait le petit con, fout la merde puis s'enfuit. Ça s'étonne un an après que la guerrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. J'suis déjà loin devant mes ramen à Omotesando.
Nom de code shuriken avec un cas comme Kunta Kinte. J'viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip hop don't stop nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary, ça va piquer. Compliqué, ça va le devenir, ma team va rappliquer. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriété. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet? Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite abdiquer. Des criquets, c'est ce qui restera quand je cesserai de kicker. Eux qui pensaient que pour rapper il suffisait de cliquer. Tu veux tester le groupe, fais la queue, prends un ticket. Plein de rimes dans l'escarcelle, ce pari-là est risqué. Mais puisque tu sembles insister, je vais pas résister. À la fin de l'envoi, ton petit boule va se faire plastiquer. On l'appelle Mike, sa fonction c'est d'éradiquer. On m'appelle Chou, j'ai la même fonction que Mike. C'est au cœur de la bataille que je fais taire les critiques. Les haters et les sceptiques, les gueux assis sur un piquet.
Omotesando, c'est un morceau d'IAM qui signe son grand retour avec un album attendu pour novembre prochain. On en reparlera. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours aujourd'hui avec une actrice qui a tourné Topless avec Brad Pitt, mais qui est donc cet exhibo de la pop culture. Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, c'est bien sûr son portrait, mais... Et c'est signé Charline Rararo.
Petit démarrage pour un lundi. Aujourd'hui, une invitée que je jalouse. Oh, tellement. Alors, du coup, vraiment pas secrètement. Hein. D'abord parce que dans le film qui l'amène dans ce studio, elle fait rien qu'à être allongée avec Benjamin Biolay.
Allez.
Et que même dépressif et en short et chaussettes, bah, ça me fait rêver. Je l'envie aussi pour avoir aussi bien revendiqué le statut de connasse et ce, en toute popularité. C'est assez rare pour être signalé. J'envie aussi le fait qu'elle a été l'espace d'une série dans la peau de la Queen of Comedy, la Queen of the World d'ailleurs, disons-le, Phoebe Waller-Bridge, dont elle a été la mouche. Je l'envie aussi pour avoir été l'agent, copine, babysitter de tout ce que le cinéma français compte de plus chouette, et notamment Béatrice Dalle. Et m'est avis que notre invitée méritait pour cette tâche bien plus que 10%. Jalousie aussi, puisque c'est elle qui a eu le privilège de psychanalyser François Civil dans 2 mois, de Cédric Clapiche. Et jalousie aussi de voix... Non mais c'est vrai, écoutez-la parler. Alors moi qui suis souvent aussi au perché. Oui, je vous cache pas, ça me fait rêver. Jalousie toutefois relativisée par le fait que j'ai pas un dixième du quart de son talent pour le drame et pour la comédie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quoi qu'envieuse, je suis néanmoins ravie.
Merci Charline. Merci beaucoup, Charline. J'ajoute Camille Cotin que Dominique Besnéard a dit au sujet de votre rôle dans 10%, je le cite, c'était évident, il fallait que ce soit elle.
Ben c'est littéral.
C'est comme ça qu'il l'a dit, exactement. Ouais. Alors, Camille, parlons de culte puisque c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une série et une musique. Pour le livre, votre choix s'est porté sur une invitée de Pop-Pop-Pop, Mona Chollet, et son livre Sorcière. Alors Charline, sorcière, c'est le féminin de sorcier, et d'ailleurs j'ai remarqué, on dit toujours « c'est pas sorcier hein, » plutôt que « c'est pas sorcière ». Pourtant, c'est des sorcières qui ont bien dégusté leur race, n'est-ce pas ?
Oui, même quand elles sont pas vraiment des sorcières, hein, puisque rappelons-le, nous sommes par définition toutes des sorcières, la femme indépendante, la femme sans enfant, la femme âgée. Un brillant essai sous-titré « La puissance invaincue des femmes », et s'agirait de pas l'oublier.
Regardez pas comme ça, faites peur. Camille Cotin, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. À vrai dire, c'est précisément parce que les chasses aux sorcières nous parlent de notre monde que nous avons d'excellentes raisons de ne pas les regarder en face. C'est risqué, c'est se confronter au visage le plus désespérant de l'humanité. Elles illustrent d'abord l'entêtement des sociétés à désigner régulièrement un bouc émissaire à leur malheur et à s'enfermer dans une spirale d'irrationalité, inaccessible à toute argumentation sensée, jusqu'à ce que l'accumulation des discours de haine et une hostilité devenue obsessionnelle justifie le passage à la violence physique, perçue comme une légitime défense du corps social.
Camille, expliquez-nous maintenant pourquoi vous aimez tant ce livre.
Ça fait partie des chocs, c'est-à-dire de... Lorsque quelqu'un vous ouvre les yeux et que ce qui vous paraissait normal, c'est exactement ça. Ce qui auparavant ne vous avait jamais choqué, tout d'un coup vous apparaît comme inadmissible. Alors, déjà, il y a toute la première partie où, effectivement, on repart au 15e siècle, 16e siècle, et ce qui était appelé chasse aux sorcières était en fait une forme de féminicide sur toutes les femmes qui ne répondaient pas à la norme, justement, en tout cas qu'on ne pouvait pas faire entrer dans des cases, à savoir principalement finalement faire des enfants. Donc les guérisseuses, les femmes célibataires, les veuves, et puis après ensuite elle part sur la société contemporaine. Il y a des chapitres vraiment très forts sur les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, sur la femme qui vieillit, le rapport à la femme qui vieillit dans nos sociétés. Et puis ensuite il y a tout un chapitre sur l'écologie, sur la façon dont on se comporte avec la terre, comme si c'était une mère, une femme à anéantir finalement, dont on doit profiter largement avant de s'en défaire.
Donc le livre vous a littéralement transporté.
Oui, le livre, et Mona Chollet, elle a une plume qui est vraiment incisive, et elle est révoltée, cette énergie de révolte est une énergie communicative. Elle est radicale. On n'est pas obligé d'être... Parce que je veux dire, c'est que c'est un livre qui intéressera tous et toutes, et qui est très documenté, très référencé. Ouais, ouais. Elle cite énormément d'essayistes, d'auteurs, notamment américaines, que je ne connaissais pas. Toutes les citations sont hyper intéressantes, donnent envie de lire les livres. Donc c'est vraiment un très, 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 très riche.
Et c'est très limpide. Faut pas être effrayé par l'essai. Elle ramène aussi souvent des éléments de pop culture à l'intérieur. Elle parle de séries, elle parle de figures très différentes.
Ouais.
Elle parle de Blanche Gardin, notamment. Enfin bref, pour citer.
Ça s'appelle Sorcière de Mona Chollet, un livre sur lequel il faut se précipiter si ce n'est déjà fait. Pour le film, Camille, vous avez choisi Three Billboards, les panneaux de la vengeance, réalisé par Martin McDonagh en 2017. Charline, on a beau avoir adoré ce film, reconnaissez qu'on s'est demandé à quoi ce qui peut pousser des panneaux à vouloir se venger. Une traduction hâtive peut-être.
Mais c'est parce que vous avez pas compris, Antoine, en
c'est
fait.
Quoi
non, les trois panneaux en question servent de moyen de vengeance à Frances McDormand. Sept mois après le meurtre de sa fille et devant l'incapacité de la police à obtenir des résultats, elle loue les trois dits panneaux publicitaires pour la somme de 5 000 $ par mois et fait inscrire « Violée pendant son agonie, toujours aucune arrestation. Pourquoi chef Willoughby ?» Et ceci n'est donc pas une comédie.
Elle dit quoi, la loi, sur ce qu'on a le droit d'écrire sur un panneau ? Je suppose qu'on doit éviter la diffamation et de dire foutre, pute ou connard, c'est bien ça ?
Ou anus ?
Alors, je pense que ça ira.
Mildred Hayes, pourquoi avez-vous mis ces panneaux ?
Ma fille, Angela, a été assassinée il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels.
Je suis la première à espérer que tout ceci mettra enfin un terme à l'étrange saga des trois panneaux à l'entrée de...
Ça met un terme à que dalle, pauvre demeurée. C'est que le début des réjouissances. T'as qu'à foutre ça dans ton bonjour Missouri, matinale pourrie de mon cul, pétasse.
voix française de Frances McDormand, qui arrive à Lyon d'ailleurs, je crois, ce week-end, non ?
Pour le Festival Lumière.
Le Festival Lumière, absolument. Dans Three Billboards, le film choisi par Camille Cotin. Alors, pourquoi ce film-là ? Pourquoi c'est pas
au passage, Martin McDonagh est donc le fiancé de Phoebe Waller-Bridge. Je ne sais pas si tu savais, Charline. Mmh. Pas si vous saviez, Charline.
Oui, tutoie, mais... grande preuve d'intelligence.
Bah, oui,
des deux.
Ça. Oh, power couple. Ouais. On peut parler d'un power couple. Non, j'aime énormément ce film. Bah, d'abord, Frances McDormand, c'est vraiment... voilà, on parlait des femmes. Une femme et une actrice tellement inspirante. La façon dont elle est filmée dans ce film, dont elle se fait filmer dans un dénuement absolu. Elle est... Tout est au service de son personnage. C'est une femme... J'arrêtais pas de m'interroger, enfin au début du film, je me disais, mais moi, si on m'avait confié le rôle d'une mère dont la fille vient de se faire violer et carboniser il y a 6 mois, jamais j'aurais pensé à l'aborder dans cette énergie-là. Mmh. Et elle a une énergie, alors c'est la vengeance qui la tient, mais on est très très loin de la femme vulnérable, ouais, victime, en demande. Et d'autre part, le film passe enfin, c'est vraiment une ode à la résilience et à la rédemption. Mmh. Et j'ai trouvé ça très fort parce que jamais manichéen, parce que Sam Rockwell, au début, il est raciste, ouais, on le voit avec sa mère, c'est vraiment l'Amérique profonde, mmh, dans tout ce qu'elle a de trumpien, de trumpiste, ou je sais pas. Et c'est le trajet qu'il va faire, Woody Harrelson. Enfin, ils sont tous, on peut tous les sauver, ou on sait jamais de quel côté ils vont basculer. Et puis il y a un mélange de genres, notamment la scène où effectivement il y a la petite amie qui rentre pour aller aux toilettes alors qu'ils sont tous en train de se menacer avec un couteau, que c'est la première fois qu'ils parlent de la fille morte, qu'on passe d'une émotion profonde à quelque chose de totalement burlesque. Moi, il m'a retourné ce film vraiment dans sa perception.
Three Billboards, donc, de Martin McDonagh. Bien, alors, encore des meufs, comme dirait Aurélien Svan. Pour la série, vous avez choisi Killing Eve. C'est une série créée par Phoebe Waller-Bridge.
Encore.
Diffusée en France.
Ça tourne à l'obsession. Il va falloir se calmer, parce que je vais lui faire peur.
Diffusée en France sur Canal, depuis 2018. Charline, j'ai envie de dire enfin, et d'ailleurs je le dis, enfin, oui, enfin, une de nos invités nous parle de cette géniale série racontée.
Eve Polastri est agent du MI5 et elle s'ennuie ferme jusqu'au jour où elle se retrouve à traquer une tueuse psychopathe surnommée Villanelle.
Je travaille pour les services secrets. J'avais raison à propos de la meurtrière. Ils veulent que j'enquête sur elle.
Et ils ont besoin de toi pour un autre job.
Quand ? Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale et qu'elle a déjà pris pour cible un certain nombre de personnes influentes dans le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur l'échelle de la folie, elle est bien perchée. Je parie qu'elle avait déjà tué avant d'en faire son métier.
Killing Eve, série absolument démente. Pourquoi avoir choisi Killing Eve plutôt que Jeanne et Serge ?
J'adore Jeanne et Serge. J'adore Jeanne et Serge. Pourquoi avoir choisi... Il y a une petite raison que je pourrais vous donner bientôt. Et en attendant, c'est Phoebe Waller-Bridge, bon, toujours, qui a créé ça, que Jodie Comer vient d'avoir un Emmy Award, que je suis en train de regarder la saison 2 qui vient de sortir. Et elle est pas très connue encore en France, un peu, je sais pas, je me rends pas compte, vous disiez justement, enfin quelqu'un. Ouais. Et elle est très, comme tout ce que fait Phoebe. Alors après, Phoebe, elle a pas écrit la saison 2, mais c'est très nouveau cet humour noir, voilà, et puis la violence féminine, voilà, ce mélange entre, excuse-moi, juste avant de te tuer, je voudrais savoir si ton chemisier il fait partie de ton pull ou si c'est deux pièces. Ça me fait beaucoup rire, moi.
Bien, terminons avec la musique. Camille Cotin, pour la musique, vous avez choisi ceci.
Ah ouais.
Last Night des Strokes, c'est un morceau sorti en 2001 sur l'album Is This It. Vous êtes donc...
C'est récent, hein. T'as vu, hein, super...
Vous êtes donc strokesienne.
Ouais, je suis strokesienne, mais pas strokiste, non, ça marche pas.
Non, strokesienne à fond, ouais.
Ouais, je les ai ratés là. Ils étaient au Hippodrome de Longchamp au mois de juillet, mais j'ai pas pu y aller. Oui, j'aime beaucoup Julianne Casablancas. Mmh. J'aime beaucoup les Strokes. Que vous dire d'autre?
Bah, vous écoutez ça le matin pour vous mettre en jambe.
Ouais,
par exemple.
Voilà. Après, je l'ai vraiment beaucoup écouté là.
Ouais.
Mais
petite lassitude peut-être.
Non, pas du tout. Après, par exemple, si je devais donner un morceau contemporain là que j'écoute, qui me plaît beaucoup, on y reviendra.
D'accord. On en parlera tout à l'heure.
Vous évitez.
Il y a un nouvel album des Strokes qui va arriver.
Alors, en attendant, je résume. Sorcière, Three Billboards, Killing Eve et les Strokes. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Je travaille pour les services secrets.
Je suppose qu'on doit éviter de dire foutre, pute ou connard. C'est bien ça?
Ou anus?
Et ils ont besoin de toi pour un autre job.
C'est que le début des réjouissances. Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale. Yeah. T'as qu'à foutre ça dans ton bonjour Missouri matinal pourri de mon cul.
Jusqu'à ce que l'accumulation des discours de haine justifie le passage à la violence physique.
Ou anus.
Ben voilà un petit smoothie de pop culture signé Camille Cotin. On s'y retrouve?
Ouais, quand
bon,
même.
Alors on continue. Nous avons appris hier la disparition de Ginger Baker, le légendaire batteur du groupe Cream, est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Ginger Baker s'était fait remarquer avec Cream, donc, bien sûr, mais porta plein d'autres projets, au nombre desquels Blind Faith, avec Clapton ou Stevie Winwood, ou encore Air Force, un groupe jouant des polyrythmies africaines. Alors, hommage avec ce morceau époque Cream, c'est Badge, extrait d'un album prémonitoirement intitulé Goodbye, en 69.
Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel.
Pop-up. Antoine Decaune
et Charline Roux. Nous recevons aujourd'hui Camille Cotin pour parler de Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré. Alors, Camille Cotin, taille, compagnon et film, voilà ce qui arrive en premier lorsqu'on tape votre nom sur Google. Camille Cotin, et aujourd'hui, rassurez-vous, nous ne parlerons ni de votre taille, ni de votre compagnon dans Pop Pop, mais de cinéma, car vous êtes à l'affiche donc du nouveau film de Christophe Honoré, Chambre 212.
212, comme l'article du Code civil qui dit, je cite, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Est-ce bien raisonnable ?»
Moi, personnellement,
pardon,
je ne me marie pas. Alors, mais chacun fait comme il veut.
Et alors, qu'est-ce que vous inspirez le cinéma de Christophe Honoré avant Chambre 212 et qu'est-ce qu'il représente après ?
Avant, c'était vraiment... Bah, ça, il le représente toujours après. Le cinéaste de l'amour, d'une grande sensualité et un poète aussi. Et il le représente toujours, même encore plus après... J'ai adoré, il tourne en pellicule, donc il y a quelque chose de très... on est un peu stressé quand on tourne en pellicule, parce qu'on sait qu'on va pas s'arrêter, que si on se fait un fou rire, c'est pas grave en fait, qu'il y a peu de prises. Puis moi je suis toujours angoissée par ce qui reste, tu vois, il faut toujours que j'ai des économies, que je me garde toujours un petit truc. Et donc le fait d'avoir une quantité, limitée de pellicules dans la journée, ça me tente déjà d'entrer. Bon là, on est tous dans la psychanalyse, mais non. Et je plaisante avec ça, mais il y a quelque chose j'ai adoré la concentration et la délicatesse avec laquelle on travaille sur le plateau et il y a quelque chose d'un petit peu sacralisé sur son plateau qui était très nouveau pour moi. Cette expériences de cinéma.
Cette chambre 212, c'est celle de l'hôtel, hein, qui est en face du domicile conjugal de Maria, domicile qu'elle quitte après 20 ans de mariage. Alors, depuis cette chambre 212, Maria a une vue plongeante sur son ex-appartement, son mari, son mariage, et elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bande annonce.
C'est qui ?
Désormais. Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano ? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris ?
Richard ! Richard, on repart, Richard !
Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré.
Parce que je m'autorise une fois un écart.
Maria, nous avons la liste de tous vos écarts.
Et elle est longue, la liste des écarts. Alors là, on se retrouve au cinéma, pour de bon, dans un film comme on en voit hélas trop peu, désormais, dans cette ambiance si particulière de film tourné entièrement en studio, avec ce soupçon de théâtralité qui rajoute au sentiment d'irréalité générale. Est-ce que c'est le premier film que vous tournez dans ces conditions-là, et qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Oui, c'est ce qu'on se disait finalement. Ouais. Juste avant, j'ai complètement anticipé la question. Mais intégralement en studio, oui. Et ce qui m'a frappé chez Christophe dans sa façon de diriger, c'est qu'il a une façon de nous proposer des déplacements physiques qui vont totalement induire une énergie, une intention, et ça passe pas du tout par le psychologique. Ouais. Et j'étais carrément chaque matin excitée et curieuse de savoir comment il allait mettre en scène la séquence, parce que je savais que sa simple mise en scène allait nous inspirer. Mais une façon de jouer, d'avoir envie de vivre la scène et même de la redécouvrir.
J'insistais sur le côté studio parce que dans l'atmosphère d'un studio, on est déjà en train de tourner une fiction, c'est une nouvelle bulle de fiction qui vient se rajouter quand on est comme ça, enfermé, en vase clos. Loin du réel.
Oui, et puis en plus, il avait, il y a des plans où la caméra glisse, on appelle ça un top shot en hauteur, donc il y a vraiment une mise en abîme des sentiments, et même j'ai découvert en voyant le film des plans, je connaissais pas l'existence entre Chiara et Benjamin, où tout d'un coup ils vont se parler l'un au-dessus de l'autre, le décor devient une maquette, ils s'amusent énormément de la forme.
Ouais, ouais.
Et c'est pas au détriment du fond, ouais. Donc c'est assez riche.
Un film servi par quatre comédiens d'exception, Chiara Mastroianni en épouse volage, Benjamin Biolay en mari délaissé, Vincent Lacoste qui joue le mari jeune, et vous, Camille, vous incarnez Irène, professeur de piano et amour de jeunesse de Richard, mais une Irène restée à 40 ans. Alors comment est-ce qu'on trouve ces repères temporels quand on joue un personnage qui a priori vient d'une autre époque, et le tempo qui va avec ce personnage ?
Déjà la coiffure, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais
petite frange,
brune, carrée, donc vraiment une coiffure, même la robe moulante avec les bottes, voilà. voilà, il y a tout un... Et ça compte, en fait, énormément. Ouais. Le costume, ouais, la silhouette. Donc, voilà, très 90. Le piano, Christophe, il m'a fait enregistrer la chanson avant le tournage. Et c'est la chanson de fin. C'est le moment où Irène va aller au bout de ce voyage, de ses retrouvailles. Et c'était étonnant de commencer, d'aborder un personnage comme ça, de trouver l'émotion du personnage à ce moment-là du film, c'est-à-dire au bout, et de la transmettre dans la chanson. Tout ça, c'était nouveau. Les cours de piano, bon, ça fait partie du voyage honoré, de tout le charme que ça comporte de travailler avec lui.
On parle ici d'une comédie de remariage, et d'ailleurs, c'est un genre, hein, c'est un genre de comédie qui a été très popularisé dans les années 30, 40, 50 aux États-Unis. Et d'ailleurs, Christophe Honoré avait en tête un film de Léo McCarey, ça s'appelle « Cette sacrée vérité ». Est-ce que vous l'avez vu ?
Bien sûr.
« Indiscrétion » et « Cette sacrée vérité ». Une petite liste de films à regarder.
Il m'a donné ces deux films-là, ouais. « Indiscrétion » et « Sacrée vérité ». Il y avait Irène Dune, et qui, donc, le personnage d'Irène Hafner est un tribute, enfin un hommage justement à Irène Dune. Le personnage de Cara s'appelait à la base Catherine, en hommage à Catherine Hepburn dans « Indiscrétion ». Mais Cara a dit « Excuse-moi, mais Catherine, moyen, il n'y a pas autre chose ».
C'est bizarre, ouais.
Moi, bof.
Et le héros s'appelait Marcello, non ?
Ouais, donc finalement, elle est devenue Maria. Mais oui, et quand il m'a donné le scénario à lire, sans encore me proposer le rôle, mais on avait pris un café, et voilà, il m'a dit « Lis le scénario », et il m'a noté justement ces deux films en me disant qu'il s'était inspiré de ces films.
Les rôles ont-ils été distribués en fonction des affinités ? Parce que celui de Chiara est celui d'une femme infidèle et volage, tandis que le vôtre est d'une loyauté à l'épreuve des balles.
Alors pour Chiara, faudra lui demander. Et moi, ça me va pas mal, ouais.
Le film penche du côté de la comédie, mais votre personnage, celui d'Irène, est presque parfois un personnage tragique, l'amoureuse délaissée qui ne s'en est jamais vraiment relevée. Est-ce que c'est facile de trouver l'équilibre de genre ?
Non, c'était pas évident, et puis surtout que les partitions, effectivement, Benjamin et moi, on traverse quelque chose de plus mélancolique.
Vous êtes dans l'appartement triste.
On est dans l'appartement triste. On est les dépressifs, hein, très clairement. Non, mais on travaille. Lui, il est brisé, oui. Il est obsédé par le bilan de son histoire, puis surtout sa femme qui est partie et l'envie qu'elle revienne. Et après, il y a quelque chose. Pareil, voilà, la mise en scène de Christophe m'aidait à justement trouver cet équilibre quand il me disait, la scène où j'arrive dans l'appartement, il dit, oui, tu passes tes doigts comme ça sur les étagères, puis tu dis, tiens, ça, je vais changer, je vais pas le faire comme ça. Voilà, parce qu'elle arrive pour rester, pour récupérer le lieu. Ça met tout de suite un humour auquel moi, j'avais pas forcément pensé, où j'étais juste dans le trac de retrouver mon amour d'enfance et pas dans la projection de, tiens, ce meuble, j'aime pas trop, je vais changer la couleur. Voilà, donc là encore, le metteur en scène est là pour nous porter.
Ce que ce très joli film raconte, le film de Christophe Honoré, Chambre 212, ce que ça raconte en creux aussi, c'est que nous, aussi bien hommes que femmes, ne sommes pas uniques mais multiples, la somme de tous nos personnages. Est-ce qu'une actrice peut dire la même chose ? Et si oui, de tout ce que vous avez joué jusqu'à présent, où y a-t-il le plus de Camille Cotin ?
Mais c'est, Christophe, il était rédacteur en chef des Un Rock et nous demandait si être acteur, c'était être infidèle à soi-même. Et on pourrait dire oui, mais si on s'amuse à dire non, ce serait justement de découvrir un peu ce qu'il y a en nous. Chaque personnage nous permet de se découvrir un peu davantage. Et je pense, Nietzsche, il dit qu'on est multiple. Je suis vraiment d'accord avec lui. Et qu'on est pétri de contradictions, et souvent on nous demande de nous définir dans les interviews, mais vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, et en fait c'est fou à quel point on est en contradiction, et à quel point on peut avoir des attributs qui ont l'air vraiment de s'opposer complètement, et qui pourtant sont complémentaires. Et c'est pour ça que c'est amusant de traverser des personnages, parce que finalement on se découvre un peu aussi, et puis c'est toujours agréable de travailler des personnages plus intelligents que nous, par exemple.
Mais dites pas ça, moi j'en rêve.
Et s'il vous était donné, comme dans le film, de rencontrer votre double d'un autre âge, lequel vous voudriez croiser et qu'est-ce que vous lui diriez ?
Justement, dans Sorcière, à un moment, je crois qu'elle parle, elle cite Gloria Stein qui dans un roman, dit qu'elle imagine se rencontrer dans un café, elle a 60 ans et elle voit son double de 20 ans. En fait, on tournait rue de l'Ambre avec Christophe, en face du cinéma des Sept Parnassiens et l'hôtel Lennox. Et juste au bout de la rue, il y a un petit café qui fait l'angle avec le café d'Edgar. à Edgar Quinet, et c'est là où j'ai commencé mes premières pièces de théâtre, jouer dans, et c'était, il y avait quoi, 30 places, une moyenne de entre 8 et 12 spectateurs par soir. j'avais 24 ans, 25 ans, et après, je me souviens, j'avais mangé une tomate mozza et boire un demi dans ce café avec mes copains, que j'ai toujours et qui sont toujours mes grands amis. Et j'ai eu une petite émotion en passant devant ce café parce que je me suis revue et je me suis dit, tiens, si on m'avait dit à ce moment-là que dans la rue d'à côté, quelques années plus tard, je ferais ce film avec ces gens que j'admire, et ben, peut-être que je me serais mis une main sur l'épaule en disant, calme-toi. Mais en même temps, si j'avais pas été calme, peut-être que j'aurais pas fait tout ça non plus.
Et la boucle est bouclée. Ça s'appelle Le Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré, avec notamment Camille Cotin, mais aussi Chiara Mastroianni, mais aussi
Benjamin Biolay et Vincent Lacoste.
Voilà, merci, merci Charline. Camille, on l'a compris, vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça? Elle sait le faire.
Oui, bien sûr.
Ah oui.
Tranquille. Moins bien que toi.
Il est un petit peu sec, mais bon, c'est pour lancer les Pop News.
Il n'avait pas partagé de musique depuis 2011 et la séparation de REM, une injustice désormais réparée, Michael Stipe vient de dévoiler Your Capricious Soul. So you post on the weekend, and you pretend you're a seeker. Un single qui sera exclusivement proposé en téléchargement sur le site de Michael Stipe, moyennant 77 centimes, qui seront entièrement reversés à l'association Extinction Rébellion, mobilisée pour le climat. Faites donc votre BA.
1917, c'est le titre du nouveau film de Sam Mendes, qu'on nous annonce comme tourné en un seul et unique plan-séquence. 1917, comme l'année durant laquelle Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Au casting, Brit's Finest, Colin Firth, Richard Yesman Madden et Benedict Cumberbatch, en VF, dans cet extrait.
I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing.
You have a brother in the 2nd Battalion. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
Let's talk about this for a minute.
Why?
Hold back!
If we're not clever about this, no one will get to your brother.
I will.
Si c'est en VF, c'est que je ne parle plus ma propre langue.
Je crois qu'il ne parle pas très bien français, Bénédicte,
voilà,
c'est
non,
pour ça.
C'était en VO, 1917 de Sam Mendes. Ce sera le 15 janvier au cinéma.
Et avis aux fans de Peaky Blinders, dont vous faites partie, Camille, vous aimez forcément aussi son générique, le Red Right Hand de Nick Cave, et vous n'êtes pas les seuls, puisque un artiste vient de déclarer sa flamme à la série en publiant ce message: By the order of the Peaky Blinders, this is Red Right Hand by Snoop Shelby, le tout assorti de cette reprise. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. What a secret lies in the border fires, in the humming wires. Et je rappelle que la saison 5 de Peaky Blinders est désormais disponible sur Netflix.
France Inter. Popopo. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Benedict Cumberbatch?
Non, Benjamin Biolay, Charline.
Oh, bah, pas du tout alors là, mais vraiment pas.
Merci Charline. Avant d'accueillir le groupe Kaiser Quartet, autrement dit le sampleur le plus cher du monde, hein, si l'on en croit Chili Gonzalez, et bien avant de les écouter eux, écoutons-le lui, Gonzalez, Let's Ride. Gonzalez, Let's Ride, cet extrait de l'album Soft Power. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Cotin, ils viennent de nous rejoindre, les Kaiser Quartet. Bonjour Ingmar Subberkrub et Martin Benz.
Bonjour.
Bonjour tous les deux. Vous serez en live tout à l'heure sur notre scène, avant d'être demain sur celle du Café de la Danse. Gonzalez parle de vous comme du sampleur le plus cher du monde. Vous confirmez l'expression ?
Das teuerste Sampler der Welt, stimmen Sie zu ?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns den Ruf verdient.
Oui, oui, absolument. On a mérité cette réputation.
Alors, Ingmar Subberkrub, vous êtes violoniste et pianiste, et Martin Benz, violoncelliste. Et avec Adam Zolinski et Jensen Volkers, vous formez le groupe Kaiser Quartet. Kaiser Quartet, c'est un groupe qui a été fondé en 2004, et vous venez aujourd'hui nous présenter Kaiser Quartet. C'est le titre du premier album. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour faire votre propre album ?
Ja, wir haben seit vielen Jahren für viele Kollegen Monat für Monat Alben eingespielt.
Disons que depuis de nombreuses années, mois après mois, on a joué pour différents collègues et confrères.
Und irgendwann wollten wir selber auch mal Mittelpunkt
stehen. Et à un moment, on a voulu nous-mêmes être au centre de la scène.
Und dann kam Ingmar dazu vor sechs Jahren und er ist sehr guter Komponist.
Et Ingmar nous a rejoint il y a six ans et c'est un excellent compositeur.
Est-ce que c'est difficile de finir par dire non à des éventuels collaborateurs pour travailler à sa propre musique?
Also zu anderen Angeboten. Nein, das sortiert sich ja aus. Also wir haben so tolle Kollegen wie
non,
Jarvis Cocker.
Nous avons nos confrères sont formidables.
Ça va Camille? Camille est en train de s'étrangler. Camille Cotin est en train de nous quitter. Non mais restez là Camille. Buvez un coup. Alors vous avez collaboré avec des noms prestigieux hein, comme Boys Noize ou évidemment le pianiste génialement fou dont nous parlions, Gonzalez. Vous puisez vos inspirations, votre inspiration aussi bien dans les morceaux de Massive Attack que dans ceux de Daft Punk. Et puis la grosse différence c'est le format de vos morceaux, 5 minutes en moyenne, un peu comme des chansons pop. Où est-ce que vous vous situez exactement ?
Naja, wir machen genau das. Wir spielen Songs, die Pop-Strukturen haben. Also
c'est exactement ce qu'on fait. On joue comme des chansons qui ont une structure pop.
Also wir haben Strophen und Refrains und Middle-Eights oder Bridges.
Des Bridges.
Und das macht den Unterschied auf. Das einzige Unterschied zu einer Pop-Band.
La seule différence avec la pop,
ist, dass wir halt ein Streichquartett sind.
C'est qu'on est un quatuor à cordes, voilà.
Il y a 12 morceaux hein, sur ce premier album du Kaiser Quartet et sur un des morceaux, lui.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Giorgio Moroder. On est d'accord, hein, c'est une icône de la pop culture.
C'est une icône de la pop culture, oui, richtig.
Ja, würde ich schon sagen. Also gerade heute, er hat ja viel Filmmusik geschrieben.
Oui, surtout aujourd'hui, il a écrit en plus beaucoup de musique de film.
Und wenn man zum Beispiel Stranger Things, die dritte Staffel gesehen hat.
Si on a vu Stranger Things, par exemple.
Da taucht der erste Song, den ich von Giorgio Moroder in meinem Leben zuerst gehört habe, nämlich Never Ending Story auf.
C'est là que je l'ai entendu pour la première fois.
Ich wusste natürlich nicht damals, als ich klein war, dass der Song von Giorgio Moroder ist.
Quand j'étais petit, je savais pas que cette chanson était de lui.
Habe ich später erfahren und,
je l'ai appris par la suite.
Genau. Und ich dachte auch, also ich habe neulich den Film, Midnight Express gesehen. Et
récemment, j'ai vu Midnight Express.
Ich kannte nämlich den Song, bevor ich den Film kannte.
Je connais la chanson avant d'avoir vu le film.
Und ich dachte, der Song ist in dem Film unheimlich lang. Es muss ein ganz wichtiger.
Je pensais que la chanson était très très longue dans le film, que ça devait être super important.
Großer Part von dem Film sein. Aber das ist eine relativ kurze Strecke.
Mais en fait, c'est assez bref.
Und dann haben die da eine Single-Auskopplung gemacht.
Et là, ils ont fait un single avec ça.
Was ja sehr selten ist in Filmmusik,
très,
dass man sagt,
pour la musique de film.
Wir machen noch eine 8-Minuten-Single zu so einem
de faire un single de 8 minutes Filmmusik. Sur un morceau comme ça.
Camille est revenue en studio après s'être enfilée une petite pinte hein, en régie. Vous regrettez de ne pas avoir pris allemand première langue, bien sûr.
Oui.
Oui. C'est tout. Bon, et de Giorgio Moroder, vous reprenez ce morceau. Chase, ça s'appelle, et vous revisitez son hit Midnight Express. Mais alors attendez. Est-ce qu'on n'est pas là face à une définition de la pop culture ?
Wäre das nicht eine Definition der Popkultur eben.
ce mélange de tout ça. Vous, des musiciens classiques, qui vous reprenez du Moroder.
Klassische Musiker, die mit Moroder-Stücken arbeiten. So.
Ja, das klingt gut, ja.
Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, bonne définition.
Est-ce qu'il y a aussi chez vous une ambition de faire une musique cinématographique?
Wollen Sie auch eine filmische Musik machen? Überhaupt.
Musik, die ohne Worte auskommt, wenn man keine Worte hat, dann wird die immer sehr schnell cineastisch.
Disons qu'une musique qui se passe de paroles devient très très vite filmique. En
fait. Man hat dann immer ganz schnell eine leere Leinwand, auf die Leute
was interpretieren, wo les gens peuvent projeter ce qu'ils veulent.
Und das passiert automatisch, wenn man keinen Sänger hat.
C'est quasiment automatique, s'il n'y a pas de chanteur.
Und deswegen ist unsere Musik natürlich sowohl cineastisch auch als
pop. C'est pourquoi notre musique est aussi bien cinématographique que pop.
Camille, vous écoutez un peu de classique, vous aussi? On écoute du classique hein, dans le Christophe Honoré, du Scarlatti.
Scarlatti dans Honoré, je la réécoute. Ouais. Je j'aimais beaucoup, j'écoutais beaucoup de Chopin, fut un temps.
Ouais.
Voilà. Mais je trouve qu'il faut remettre un peu de classique dans nos vies.
Absolutely. Aujourd'hui, Kaiser Quartet, vous présentez votre premier album, que des titres originaux, hein, donc à l'exception de la reprise de Moroder. On a parlé de vos inspirations. Est-ce que ça veut dire que vous avez définitivement tourné le dos à la musique classique?
Nein, auf keinen Fall. Wir spielen ja
pas du tout.
Klassische Instrumente.
Nous jouons sur des instruments classiques.
Wir haben keine Effekte jetzt drauf.
Il n'y a pas d'effet dessus.
Wir machen da aber keinen Unterschied. Für uns ist
pour nous, il n'y a pas de différence.
Musik das Wert, was sie beim Zuhörer auslöst.
La musique, c'est la valeur que ça, les émotions que ça déclenche, c'est chez l'auditeur.
Johann Sebastian Bach sie geschrieben hat oder Ingmar Sübergrüpp oder Chili González.
Que ce soit les émotions déclenchées par Bach qui a écrit un morceau ou par Ingmar à côté, pour nous, c'est la même chose.
Est-ce que Bach déclenche plus d'émotions ou Ingmar?
Löst Bach mehr Emotionen oder Ingmar?
Bei mir, ich würde sagen, c'est un niveau.
Pour moi, c'est au même niveau, en tout cas.
J'ai pas eu la chance de vous voir sur scène, mais du coup, on se pose la question, comment ça se déroule? C'est quoi l'ambiance pendant un concert du Kaiser Quartet?
Ah, fantastisch. Also wir haben Publikum formidable. Von 18 Jahren bis 95.
Nous avons des spectateurs depuis de 18 ans jusqu'à 95, donc 15 ans. Enfin,
parlez-moi là.
Ouais. Café de la danse.
Mm-hmm. Et on verra au Café de la danse demain comment ça va se passer. Ouais.
Debout ou assis? Qu'est-ce que vous attendez du public?
Im stehen oder sitzend?
Sitzend.
Non, assis.
Bon. Assis.
D'accord.
Ça sera au Café de la Danse demain soir. En attendant, vous avez accepté de venir jouer dans notre studio aujourd'hui. Je dois dire qu'ils sont magnifiquement sapés.
Hein. Franceinter.fr.
Ah ouais, magnifique. Bravo. J'adore vos costumes.
Les costumes.
Et puis bravo pour cet effort vestimentaire aussi. Donc vous allez rejoindre, s'il vous plaît, la scène mythique de Pop 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 et nous allons être tout ouïe. Camille, il faut remettre vos casques si vous voulez profiter du son magnifique du Kaiser Quartet qui sera donc demain soir en concert au Café de la Danse et dont le premier album vient de sortir. Dès que je vous fais mon signal, c'est à vous. Attention, 3, 2, 1. Thank you. Kaiser Quartet, dont le premier album vient de sortir, et ce morceau, Grosse Rome Disco, je ne sais pas si je prononce très bien,
si,
pas
si,
allemand, première langue, moi. Vous l'avez fait, vous, allemand, première langue, allez-y.
Oui, mais non, mais
allez-y,
vous faites pas ça, j'en ai aucun souvenir.
Allez-y.
Grosse Rome Disco.
Voilà, très bien. Ah ouais. Merci d'être passé par notre studio. Vous serez donc demain soir au Café de la Danse, à ne pas rater ce concert. Et merci à vous, Camille Cotin. Merci d'être passé chez nous. Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré, ça sort ce mercredi. Et évidemment, c'est chaudement recommandé par Pop Pop.
Ah oui.
Ah oui. Merci à l'équipe de Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Mathias Alléon et Ronan Mahé, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, à la traduction Bernard Mangiante et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Alex Ramirez et lui. Et lui, c'est Eric Bordon. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos allemands sur YouTube.
Abonnieren Sie unseren Podcast.
Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.